Alors, est-ce que vous avez déjà l'impression que votre foi en Dieu et dans ses promesses ne produit pas grand-chose? Vous pensez peut-être que vous vous êtes beaucoup investi, mais que les rendements ne sont pas très intéressants. Vous avez pris des risques pour Dieu, peut-être, et maintenant vous vous demandez si ça valait le coup. Vous avez pris au sérieux votre mission chrétienne, la grande mission de faire des disciples en annonçant la bonne nouvelle. Et pourquoi? Peut-être vous vous êtes déjà dit, j'ai prié pour lui, pour cette personne, pendant 20 ans, mais il rejette toujours l'évangile. Ou j'ai distribué 2000 flyers pour une soirée de Noël à l'église et tous ont été ignorés. J'ai finalement eu le courage de parler de Jésus avec mes amis et ils se sont moqués de moi. J'ai investi beaucoup de temps dans la vie de cette personne qui a finalement déménagé. J'ai consacré mon temps et mes ressources à cette église qui a fini par fermer ses portes. J'ai préparé cette leçon magnifique pour l'école de dimanche et le seul enfant présent ne m'a pas écouté parce qu'il était trop occupé par ses propres bêtises. Peut-être ça arrive des fois. J'ai passé 20 heures en préparant une super prédication pour l'église. Mais finalement, à cause des vacances, il n'y avait que 10, peut-être 5 personnes au culte. Tout ce travail pour 5 personnes, 10 personnes, tous ces risques pris pour Dieu et qui ne valent pas le coup. Alors, c'est une réaction, je pense, assez normale, d'être fatigué, d'être frustré, d'être découragé par des circonstances hors de notre contrôle, n'est-ce pas? Dans la vie, dans la mission chrétienne, nous faisons face à de nombreux défis. Nous sommes confrontés à de multiples obstacles. Nous sommes mis face à nos propres attitudes qui ne sont pas justes. Mais comment vivre audacieusement face aux incertitudes? Comment vivre audacieusement pour Dieu? C'est ça la question qui trouble l'auteur de l'Ecclésiaste dans le 11e chapitre de son livre. Et dans les versets 1 à 6, il nous donne quelques conseils pratiques qui nous rappellent finalement de l'assurance que nous avons en Dieu. On va lire donc Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 à 6. Ecclésiaste 11, versets 1 à 6. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gonflés de pluie, ils les déversent sur la terre. Et si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est à la place où l'arbre tombera qu'il restera. Qui observe le vent ne s'aimerait point. Qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais point le mouvement du vent, ni l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce texte, pour ta révélation. Je prie, Seigneur, afin que tu nous aides dans cette étude. Guide-nous dans cette étude de ta parole, Seigneur, et dans l'application de ce texte, pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de pénétrer dans la richesse de ce texte, je voudrais vous rappeler le contexte. L'auteur de l'Ecclésiaste, ce qu'on appelle le Coëlète, ou le roi philosophe qui rassemble son peuple afin de les enseigner, cet auteur-là a pour but de nous montrer deux visions du monde. Et la première vision du monde est une vision où Dieu ne rentre pas en compte. D'accord? C'est une vision où Dieu ne rentre pas en compte. C'est un monde rempli de vanité, d'absurdité et de désespoir. Mais la deuxième vision présentée dans ce livre est une vision d'un monde où Dieu se présente. Mais c'est nuancé, en fait. Cette deuxième vision contient aussi la vanité et l'absurdité. Le Qohélète, ou le roi philosophe d'Israël, nous montre un monde difficile, un monde compliqué, un monde plein de deuil et de doutes. Il nous dit que la foi en Dieu ne supprime pas les difficultés de la vie, mais la foi nous aide à surmonter ces difficultés avec la vraie espérance devant nous. Nous voyons cette espérance dans les 6 premiers versets de l'Ecclésiaste, chapitre 11. Je vais diviser en fait ces 6 versets en 3 parties. Le conseil donné dans ces 3 parties nous rappelle que le risque de la foi est un investissement qui procure toujours des rendements. D'accord ? Le risque de la foi est un investissement qui procure toujours des rendements. Et je ne peux pas dire par ça ou par là que la foi est un outil de négociation qu'on emploie pour gagner quelque chose. Ce n'est pas du tout ça l'idée. Je veux dire tout simplement que la foi en Dieu n'est jamais en vain. Dieu est fidèle dans ses promesses et nous devrions être fidèles dans notre obéissance. Alors en lisant, on va commencer maintenant avec ces 2 premiers versets. Et en lisant ces 2 premiers versets, nous pouvons nous demander à quoi ça sert cette devinette. Jette ton pain à la surface des eaux. Jette ton pain à la surface des eaux. Quelle sagesse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Jette ton pain à la surface des eaux. C'est un peu bizarre comme conseil, à mon avis. Avec mon expérience limitée avec ce genre de choses, quand on jette du pain à la surface des eaux, il arrive normalement 2 possibilités, n'est-ce pas? Soit les canards le mangent tout de suite, n'est-ce pas? Soit ça désintègre et descend vers le fond. C'est pas très efficace, ça sert à quoi de jeter ton pain à la surface des eaux? Alors le Qohélète, qui est probablement le roi Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire selon la Bible, n'est pas si naïf pour nous conseiller de jeter littéralement notre pain dans la mer. C'est pas ça l'idée. Mais il est assez futé pour évoquer en nous l'image d'un investissement. On jette le pain et il revient. Selon certains commentateurs, le fait de jeter le pain dans l'eau est une image de quelqu'un qui sème dans un champ et qui moissonne abondamment quelques mois plus tard. C'est une récompense qui demande beaucoup de patience. Cette interprétation penche, à mon avis, dans le bon sens. Mais l'image plus probable ici est celle du commerce. On fait accoster le navire rempli de grains, des biens, de marchandises, et il revient avec l'argent. C'est un peu ça l'idée. On prend un risque dans le commerce et notre investissement est doublé. C'est vraiment ça l'image de ce texte. En disant « jette ton pain à la surface des eaux », le Qohélète nous dit « prenez un risque tout simplement ». Si on veut épargner, on veut de la retraite, quelle est la meilleure méthode ? De mettre notre argent sous le matelas en espérant qu'il ne sera jamais trouvé par un cambrioleur ? Est-ce que c'est ça la meilleure méthode ? Ou peut-être une autre option, c'est d'investir nos économies dans un fonds de retraite, dans un fonds commun, ou peut-être dans le marché boursier. C'est un risque, bien sûr, mais les risques sont nécessaires. Ça me fait penser à la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25. Un homme confie son argent à ses 3 serviteurs avant de partir pour un long voyage. 2 de ses serviteurs gagnent double de ce que leur maître leur a confié. Mais le troisième a creusé un trou et caché son argent. Il n'a pas pris le risque. Il n'a pas pris le risque. Et ça lui a coûté à la fin. De la même façon, le Qohélète nous incite à tenter un plus grand rendement. En fait, le verset 2 nous dit comment aborder ce risque. Donne une part à 7 et même à 8. Autrement dit, diversifiez vos investissements. Et ensuite, diversifier un peu plus. C'est ça l'idée. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ne mettez pas tout votre argent dans un fonds de marché émergent instable. diversifié. Mais est-ce que ces versets servent juste du conseil financier? Je ne pense pas. Il y a des applications diverses, bien sûr, dans ce texte. Mais je pense que l'idée le plus important de ces versets s'applique à notre relation avec Dieu. Quand on investit dans le royaume de Dieu, notre investissement n'est jamais vain. On peut prendre des risques pour Dieu dans nos efforts d'évangélisation, dans nos relations avec les gens, en sachant que quand on cherche et suit la volonté de Dieu, nos efforts ne sont jamais vains. Le risque de la foi est un investissement qui procure toujours des rendements. Alors, on peut prendre des risques pour le royaume de Dieu, mais cela veut dire qu'il faut se grouiller un peu, n'est-ce pas? Dieu nous a confié la grande mission, la transformation du monde pour sa gloire. Il nous a confié une grosse responsabilité, mais il faut bouger, il faut se grouiller. Les versets 3 à 4 nous évoquent une image d'un fermier qui se tient debout près de la fenêtre. Il regarde ses champs, il regarde le ciel, il a peur de la pluie. Quand il voit un petit nuage, il reporte l'ensemencement encore une fois. Les jours puis les semaines passent, et bientôt ses voisins commencent déjà leur moisson. Mais ce fermier timide regarde toujours le ciel, inquiété par les facteurs environnants. C'est ça l'image qu'on voit ici. Comme les nuages gonflés de pluie, et comme un arbre qui tombe dans la forêt, le verset 3 nous dit qu'il y a des circonstances hors de notre contrôle dans la vie. On ne peut pas changer les événements naturels. On n'a aucun contrôle sur la météo. Le fermier ne peut pas s'attendre à des conditions météo parfaites. Il ne peut rien faire quand les nuages sont gonflés de pluie. Mais ce qu'il peut faire, c'est d'agir. Si vous n'êtes pas un enfant, imaginez un instant que vous êtes un enfant et que vous êtes parti en vacances à la mer avec votre famille. Vous avez 2 semaines dans une maison de plage, dans un bel endroit. Vous êtes impatient de jouer dans le sable et de vous baigner dans l'eau claire et limpide. Vous mettez votre maillot de bain et vous vous dirigez vers la porte quand soudain votre père vous dit « Il y a trop de monde sur la plage. » Il faut attendre. Donc vous attendez, mais ensuite votre mère vous dit « L'eau est trop agitée, il faut attendre. » Le lendemain, votre père vous informe qu'il y a 10% de chances de pluie et donc il faut attendre juste au cas où. Vos parents vous avertissent du risque des requins qui pourraient s'approcher de la plage de temps en temps. Ils vous alertent du danger des coups de soleil, des rayons UV. Et finalement, les 2 semaines passent et vous n'avez pas mis un seul pied sur la plage. C'est horrible, n'est-ce pas? C'est horrible, ça. Et de même, dans la vie spirituelle, nous pouvons imaginer toutes sortes de difficultés. On peut toujours attendre plus longtemps pour le bon moment d'annoncer l'Évangile. On peut toujours attendre plus longtemps avant d'offrir notre enseignement à l'école de dimanche. On peut toujours attendre plus longtemps avant d'aller rendre visite au voisin qui est malade. On peut toujours trouver des excuses. Mais malgré les circonstances de la vie, Dieu nous appelle à l'action avec le temps qu'il nous donne. Cette action pour Dieu est un risque, bien sûr. Mais comme le texte nous dit, le risque de la foi est un investissement qui rend toujours ou procure toujours des rendements. Alors c'est facile pour moi de me tenir devant vous et dire « Allez jeter votre pain à la surface des eaux, allez vous occuper de la moisson, allez prendre un risque. » Mais en réalité, ces risques dans la vie ne sont pas faciles, c'est pourquoi ils sont appelés les risques, n'est-ce pas? Mais c'est aussi pourquoi la suite de ce texte nous donne une assurance qui se trouve en Dieu. Les versets 5 à 6 de ce texte nous ramène aux idées du début, mais maintenant avec plus d'informations. Il nous exhorte à servir Dieu en sachant qu'il y aura des incertitudes, des manques d'informations dans la vie et dans nos projets. Il nous pousse à servir Dieu en nous assurant que Dieu est souverain sur tout. Tout simplement, ces deux versets nous demandent de faire confiance à Dieu pour les résultats. Le verset 5 nous assure qu'il y a et qu'il y aura des mystères dans la vie et des trous dans notre connaissance. Le texte illustre cette idée notamment par le mouvement du vent, le développement d'un embryon dans le ventre de sa mère. Ce verset est en train de dire tout simplement qu'il y aura des choses, soit des idées scientifiques, soit des événements historiques, soit quelque chose d'autre que nous ne pouvons pas saisir complètement. Et comme certaines choses restent mal comprises par nous les hommes, de même certaines œuvres de Dieu restent mal comprises par nous les hommes. Le verset 6 nous dit qu'on ne connaît pas le résultat, mais on sait que Dieu nous appelle à prendre le risque dans la foi. J'étais au centre commercial Confluence la semaine dernière, et en passant ou prenant la passerelle devant le grand mur d'escalade qui est là, peut-être vous connaissez cet endroit-là, il y a une salle de sport là avec une grande mur d'escalade. Et j'ai remarqué une foule rassemblée devant la vitrine. Et là, sur l'autre côté de la vitrine, j'ai vu une plateforme suspendue au moins 20 mètres au-dessus du sol, sur laquelle on peut sauter et descendre doucement, attaché bien sûr par un baudrier et une corde. C'est très intéressant ça. Mais là, j'ai vu une fille, âgée d'environ 12 ans, saisie de peur, complètement saisie de peur, s'accrocher à la plateforme pendant que le proposé d'escalade essayait de la convaincre de sa sécurité. Je suis resté là avec les autres pendant quoi, 5 minutes, 10 minutes, pour regarder si elle saute ou pas. Et finalement, j'ai perdu intérêt et je suis parti. Je ne sais pas si elle a sauté ou pas. Mais moi, je ne suis pas très différent, en fait, de cette fille qui a été saisie de peur. Mon manque de foi me laisse souvent accrocher au doute. Mais peut-être c'est parce que j'oublie qui m'assure. Peut-être c'est parce que j'oublie l'œuvre de Dieu et sa souveraineté. En fait, la foi n'est pas vraiment un saut dans le vide. Je ne crois pas que ça c'est la vision de la foi présentée dans la Bible. C'est un saut, on est d'accord. Ça fait peur, parfois. On est d'accord. Mais on ne doit pas oublier que notre baudrier est attaché à une corde qui est attachée à son tour à Dieu. La vision du Qohélète est réaliste dans ce verset. Il ne nous appelle pas à l'optimisme irréaliste, parce qu'il constate que la vie sera difficile et remplie d'inconnus. Il ne nous appelle pas au pessimisme, parce qu'il constate aussi que la vie est tenue par Dieu. Le commentateur Michael Eaton a dit que la vie de foi ne supprime pas le problème de notre ignorance et nous permet de vivre avec. La foi s'épanouit dans le mystère de la providence et ne l'abolit pas. Pratiquement, l'Ecclésiaste chapitre 11 nous mène à plusieurs applications. Plusieurs applications nous rappelant que le risque de la foi est un investissement qui procure toujours des rendements. Et donc, je vous encourage en premier à jeter votre pain sur les eaux. Jeter votre pain apologétique sur les eaux. Et qu'est-ce que je veux dire par là? L'apologétique est la défense de la foi chrétienne par les arguments raisonnés. C'est une présentation claire et précise de la vérité de l'Évangile. C'est accompagné par les témoignages personnels et par la prière. Et donc, je veux dire, investissez-vous à 7 et même à 8 projets d'évangélisation. Encouragez 7 et même 8 personnes dans leur foi. Priez pour 7 et même 8 voisins ou amis. Annoncez la bonne nouvelle 7 et même 8 fois. Vous voyez? Tentez quelque chose pour le Seigneur. Ça ne réussit pas toujours, mais jetez quand même votre pain à la surface des eaux. Et deuxièmement, Soyez patient et laissez Dieu faire son œuvre. Laissez Dieu faire son œuvre. On ne voit pas toujours un résultat immédiat à notre obéissance. Comme j'ai mentionné au début, on est frustré des fois par les circonstances dans la vie, dans le ministère, dans l'évangélisation. Mais Dieu tient ferme ses promesses. Il œuvre pour le bien de ce monde et pour sa gloire. Le commentateur sur ce texte, Philip Reichen, raconte l'histoire d'un homme, Luke Short, qui est vécu il y a longtemps maintenant, mais qui a passé sa vie à rejeter l'Évangile. Mais à l'âge de 103 ans, Luke Short s'est souvenu d'une prédication prêchée quand il était jeune en Angleterre, des décennies avant. Et là, dans son grand âge, il a reçu Christ comme sauveur. Pour 3 ans de plus, il a vécu une vie de foi. Mais ça a pris presque un siècle entre l'annonce de l'Évangile et sa conversion. Soyez patient, laissez Dieu faire son œuvre. Dieu, dans sa souveraineté, va faire ce qu'il s'engage à faire. Dieu a rendu l'œuvre de Christ à la croix efficace au salut. Il nous a promis que si on confesse de notre bouche, si on croit dans notre cœur que Jésus est Seigneur, on sera sauvé. C'est ça l'Évangile. C'est ça l'espérance chrétienne. Dieu a promis que si on annonce l'Évangile, certaines personnes vont répondre. Si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, bien sûr, il va faire des choses extraordinaires dans notre vie et dans son Église. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions pour que tu inclines notre cœur vers toi dans la sagesse, Seigneur. Aide-nous à nous attacher à toi dans la foi, de prendre des risques pour toi. Guide-nous dans l'application de ta parole, Seigneur, pour ta gloire. Et finalement, Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, pour ton amour, pour la croix de Jésus-Christ, pour le salut. Au nom de Jésus. Amen.